Solidaid, une émission qui donne la parole aux associations locales et aux ONG.
Nous accueillons aujourd'hui Céline Deville, elle représente le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. On va parler aujourd'hui du statut de cohabitant, mais également de santé mentale, puisqu'elle est accompagnée de Bernadette Caudron, qui elle est maman d'une grande personne qui est atteinte de schizophrénie. Et on va parler de tout ça ensemble pendant cette première demi-heure. Bonjour. Bonjour. À toutes les deux.
Bonjour.
Alors, le statut de cohabitant légal, qu'est-ce que ça représente en fait chez nous ici en Belgique?
Donc, on parle bien du statut de cohabitant.
Oui, pardon. Oui, tout à fait. C'est pas du tout la même chose.
Voilà, pas la cohabitation légale. Donc, le statut cohabitant. Donc, c'est une très forte diminution en fait des allocations de remplacement. Donc, que ce soit le chômage, la mutuelle. Le revenu d'intégration au CPS, les allocations pour les personnes en situation de handicap ou encore la GRAPA pour les personnes pensionnées. Donc, on va très fortement diminuer leurs allocations s'ils décident de vivre avec d'autres personnes. Donc, c'est ça l'idée du statut cohabitant. Donc, vous avez trois catégories familiales. La catégorie chef de famille, si vous avez par exemple des enfants à charge, qui sera la plus élevée. Une catégorie isolée si vous vivez seul. Mais si vous décidez de vivre avec d'autres personnes, alors on va diminuer votre revenu. Sachant que ces revenus-là sont déjà souvent sous le seuil de pauvreté. Pour prendre l'exemple du CPS, 984 euros en tant qu'isolé par mois. Et lorsqu'on est cohabitant, on descend à 656 euros. Pour le chômage, c'est encore une plus grosse diminution puisqu'on passe de 1117 euros pardon, en tant qu'isolé à environ 570 euros en tant que cohabitant, ce qui est un montant évidemment infime pour vivre chaque mois.
Mmh, absolument, d'autant que le fait d'habiter ensemble aussi, c'est pour bénéficier d'une aide au quotidien, évidemment.
C'est bénéficier d'une aide, c'est bénéficier de présence, c'est vivre en colocation, vivre en famille, ça peut être beaucoup de choses évidemment. Et donc évidemment, un des premiers effets du statut de cohabitant au-delà de la pauvreté que ça engendre, c'est un effet sur la santé mentale puisque le statut de cohabitant amène beaucoup d'isolement. Et peut amener des problèmes ou aggraver des problèmes de santé mentale. Une militante de chez nous me disait qu'elle n'a pas le droit de vivre avec quelqu'un, en fait, parce qu'on va diminuer son revenu, elle n'aura plus son indépendance. Et elle me disait, tu as juste le droit de rester confinée chez toi toute seule. Je trouve que ce sont des mots importants. Elle disait, ça devrait nous être restitué de pouvoir vivre avec quelqu'un d'autre sans être pénalisé au niveau financier.
C'est ça. Donc certaines personnes ont un besoin d'aide ou de vivre en cohabitation, mais ils préfèrent ne pas choisir cette option parce que sinon financièrement ils ne s'en sortent pas.
C'est ça, un besoin ou simplement l'envie de se mettre en couple, par exemple. Mm-hmm. Il y a beaucoup de personnes dans nos militants qui hésitent ou décident de ne jamais se mettre en couple physiquement, donc de vivre avec quelqu'un, parce que ça entraînerait une trop forte diminution de leurs revenus et donc une dépendance parfois vis-à-vis du conjoint, ce qui n'est pas spécialement souhaitable. C'est souvent les femmes qui sont pénalisées dans ce cas-là, et donc qui décident du coup de rester chacun dans leur habitation alors qu'ils souhaiteraient peut-être vivre ensemble.
Mmh. Alors, Qu'est-ce qui, selon vous, justifie cette diminution d'allocation? Quels sont les arguments qui sont invoqués?
Donc, les arguments qui sont évoqués, c'est que, en réalité, le statut cohabitant a été mis en place dans les années 70 pour le CPS, dans les années 80 pour le chômage, pour faire des économies. Et d'ailleurs, dans un premier temps, ça avait été mis en place temporairement. Aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'on réclame que ce statut soit aboli, que les personnes aient des droits individuels et donc que chacun ait droit au moins à un taux isolé pour avoir un revenu un minimum décent. Et on continue de faire des économies dans la poche des plus pauvres en laissant ce statut tel qu'il est. L'argument pour ne pas l'enlever souvent est budgétaire. Notre argument à nous, c'est qu'on pense qu'on ferait beaucoup d'économies en réalité Si on permettait aux gens de vivre à plusieurs, déjà on récupérerait des logements. Des personnes qui vivraient ensemble, ça ferait des logements sociaux, par exemple, qui pourraient peut-être être libérés parce que des personnes se mettent en couple. Mais ça ferait aussi du bien à la santé des personnes. Ça permettrait d'avoir de meilleurs logements pour certaines personnes qui, parce qu'elles vivent seules, vivent dans de petits logements qui sont souvent de piètre qualité. Et donc, il y a beaucoup d'arguments, en fait, qui montrent que ce serait finalement positif pour la société en général et positif à long terme pour les finances de supprimer statut cohabitant. Mais évidemment, l'argument, c'est que ça va coûter de l'argent.
Évidemment, et pourtant, ici, c'est vraiment une question que les personnes isolées, justement, n'ont pas les moyens d'avoir un logement décent. Hein. C'est bien, enfin, dans ce cas de figure-là. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ils habitent ensemble, en fait.
Oui, c'est ça. Et alors, l'argument du statut cohabitant, c'est de dire que quand on vit ensemble, on fait des économies. Alors, évidemment, on fait peut-être un peu d'économies quand on vit ensemble. Souvent, en fait, quand on vit ensemble, on va louer, dans la plupart des cas, un logement plus grand, un peu plus confortable, peut-être plus adapté, peut-être mieux isolé. Mais finalement, un petit confort qui coûte plus cher aussi de vivre ensemble. Et donc, cet argument de dire on fait des économies, donc on diminue votre revenu, pour nous, il n'est pas juste. Et il confine beaucoup de gens à l'isolement et dans des logements qui sont en effet précaires. Une autre conséquence aussi du statut cohabitant, c'est que ça amène une relation de contrôle vis-à-vis des personnes. C'est-à-dire qu'on va aller investiguer dans leur vie privée pour voir s'ils vivent avec quelqu'un ou pas. Et notamment, il y a certains CPS qui ont engagé spécialement des personnes pour vérifier ça. Et donc,
d'agents de quartier qui vont venir vérifier, en fait.
C'est ça, qui vont venir vérifier si vous viviez bien seul. Et donc, pour certaines personnes qui, par exemple, sont en couple, mais sans avoir décidé de vivre ensemble, ça peut être une peur au jour le jour d'avoir cette personne qui vient les contrôler le jour où quelqu'un a dormi chez soi, où son enfant est revenu quelques jours vivre chez soi. C'est un stress, en fait, au quotidien. Il y a peut-être aussi des personnes qui, entre guillemets, fraudent. Je dis bien entre guillemets, et qui vivent ensemble tout en gardant deux logements. Et ces personnes-là, ça les met dans un stress au quotidien. Et puis surtout, ça va ruiner la relation de confiance qu'il faudrait construire avec des assistants sociaux, avec des personnes qui travaillent dans des CPS, qui sont là pour accompagner. Et pour accompagner, il faut cette relation de confiance. Et si on est dans une relation de défiance parce qu'on a peur de contrôle, qu'on a peur qu'on voit qu'on vit avec quelqu'un, par exemple, évidemment, ça a aussi finalement une influence sur la santé mentale des personnes.
C'est ça. Alors effectivement, la santé mentale, vous en parlez maintenant. Comment ça se passe? C'est quoi le processus? Comment est-ce que ce statut peut peser sur la santé mentale?
Mais il y a deux choses. Premièrement, on vient d'en parler, il y a cette question de l'isolement, cette question de la peur, de l'angoisse. Et donc là, on sait clairement, en tout cas, nous, dans les témoignages qu'on récolte, on voit clairement l'effet du statut cohabitant sur la santé mentale. Et puis, il y a le cas, j'ai envie de dire contraire, de personnes qui ont des troubles de santé mentale, parfois qui sont diagnostiquées avec une maladie santé mentale, qui ont une reconnaissance d'un handicap par rapport à ça, qui bénéficient du coup d'allocations de ce qu'on appelle souvent la Vierge Noire, donc la Direction Générale aux Personnes Handicapées, et qui, si elles décident de vivre avec d'autres personnes, vont subir le statut cohabitant. Principalement si elles vivent avec des membres de leur famille. Lorsqu'elles vivent en couple, c'est un peu différent, puisqu'on appelle ça le prix de l'amour. Oui. Donc là, on va diminuer leur revenu en fonction du revenu de leur conjoint. Mais lorsqu'elles vivent avec une personne de la même famille, elles sont automatiquement cohabitantes. Et donc là, c'est une forte diminution de revenus. Donc c'est pour une personne cohabitante, allocation de remplacement de revenus, 683 euros par mois. Donc c'est vraiment une allocation minime. Tandis qu'un isolé toucherait un peu plus de 1000 euros par mois.
C'est ça. Alors je me tourne vers vous, peut-être Bernadette, puisque en fait vous êtes un petit peu dans ce cas de figure-là avec votre fils. Je le rappelle, est atteint de souffre de schizophrénie, qui est adulte, qui est une personne adulte. C'est quoi un petit peu l'histoire que vous avez par rapport à ce statut? Quel est l'inconvénient? Enfin, comment vous avez vécu ça?
Comment dire? Donc, il est adulte, il a 41 ans. Ça fait 23 ans qu'il a été diagnostiqué schizophrène, enfin qu'il a une schizophrénie. Et lorsque nous habitions à Liège, il était considéré comme isolé, alors que nous habitions dans une maison unifamiliale. Et il y a un peu plus de 2 ans et demi, nous avons déménagé à Andenne, près d'Andenne. Et là, la Vierge Noire, donc le SPF Santé, l'a considéré comme cohabitant, malgré que nous ayons signé un pacte de colocation. Alors que bon, cette maison est plus grande, il a une chambre avec une salle de bain privée, il a aménagé son espace pour qu'il puisse y vivre normalement. Il a une machine à café, il a un frigo, il a un début de cuisine. En ce qui concerne son alimentation et ses dépenses au quotidien, chaque mois, nous faisons les comptes. Il nous verse une certaine somme qui correspond à sa consommation personnelle. Le fait aussi que cette maison est beaucoup plus grande et que chacun a son espace, concernant l'électricité, le chauffage, il chauffe son espace de vie et chacun, nous chauffons notre espace aussi. Il y a une autre chose à souligner, c'est que avec une pathologie aussi sévère que la schizophrénie ou les bipolaires ou d'autres maladies mentales, si la personne n'est pas bien entourée, donc si la personne vit seule, elle fera des allers-retours entre l'hôpital psychiatrique et sa maison. Lorsqu'elle se retrouve en hôpital psychiatrique, ça veut dire qu'elle est en pleine crise. Donc, ces jours peuvent durer des mois, finalement. C'est pas pour une ou deux semaines, ça dure des mois. Et on sait qu'un mois d'hospitalisation coûte à l'INAMI 11 000 euros par mois. Donc, le fait que beaucoup de parents préfèrent qu'ils soient à la maison parce qu'ils peuvent apporter directement une aide et surveiller, entre guillemets, la prise de médicaments, fait que ces enfants, ces personnes ne sont plus hospitalisées ou beaucoup moins. Donc ça fait effectivement faire des économies assez énormes à la société.
Ici encore un avantage de la suppression du statut cohabitant. Donc, comme vous le dites, on refuse de donner 300 euros de plus à son fils parce qu'il est cohabitant et pas isolé. En tout cas, c'est ce qu'on considère. Alors que, comme vous le dites, il a son propre espace, il paye ses charges, etc. Alors que si vous choisissiez, il a besoin de ces 300 euros, il va vivre tout seul. Ce que vous dites, c'est que ça coûterait beaucoup plus cher à la société puisque ça reviendrait à 11 000 euros par mois à chaque fois qu'il est hospitalisé.
Oui, parce que à ce moment-là, ce sont des allers-retours réguliers avec l'hôpital, donc des frais d'hospitalisation que vous arrivez heureusement à éviter en étant entre guillemets
parce qu'on prend
tout prêt.
On prend tout de suite, on le voit tout de suite quand il y a quelque chose qui ne va pas, et si on laisse aller. Une autre chose aussi, à Liège, étant considéré comme isolé, il payait des taxes, taxes immondices. Donc pas grand-chose, parce que justement, il est sous statut de handicapé, mais il payait ses taxes, donc ça rapportait de l'argent à la ville.
Et pour aller dans le même sens, peut-être, moi j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs mamans en fait, d'adultes avec des problèmes de santé mentale. Et certaines témoignaient du fait qu'elles hésitent en fait aussi à sortir leur enfant d'institution. Elles souhaiteraient les reprendre à la maison pour s'occuper, elles, de leur adulte enfants. Mm-hmm. Mais elles hésitent parce qu'elles ne savent pas si elles sauront assumer les coûts. Et une dame me disait, les 300 euros que, que mon fils va perdre dans ses allocations, c'est 300 euros qui pourraient être utilisés pour payer une aide-soignante, pour payer une aide à domicile, pour ne serait-ce qu'avoir moins une ou deux heures par jour pour souffler. Mmh. Parce que son fils est actuellement en hôpital où il a une surveillance permanente et qu'il a besoin de ça. Elle, elle souhaite le reprendre, mais elle n'ose pas parce qu'elle n'est pas sûre de pouvoir se payer cette aide.
Mmh. Non seulement financière, mais le fait que l'aide doit parfois être constante aussi.
C'est ça. Mmh. Et donc, ce sont déjà des familles qui supportent beaucoup de choses, qui font finalement du travail bénévole, qui font du travail qui pourrait être payé dans d'autres circonstances.
Ah oui.
Et qui donne beaucoup d'énergie. Et en plus, on pénalise leurs enfants en diminuant leurs revenus. Et parfois, même le parent lui-même. On a eu le cas d'une personne qui est elle-même en maladie-invalidité et qui se demandait, est-ce que moi aussi, mon revenu va diminuer? Est-ce que je vais aussi devenir cohabitante? Finalement, heureusement pour elle, il semblerait qu'elle ait un statut de chef de ménage.
Oui. Mmh.
Mais la question s'est posée, et ça c'est peut-être aussi une chose à dire sur le statut cohabitant, c'est une loi tellement compliquée. D'un régime à l'autre, on va l'appliquer différemment. Ça crée énormément de confusion. Donc les gens ne savent pas s'ils vont être considérés comme cohabitants ou pas, parce que dans certains régimes, ça dépend des revenus des autres personnes. Et donc ça crée beaucoup d'incertitudes qui sont compliquées. Et ces incertitudes, quand vous avez déjà tout pile pour vivre, que vous avez à peine la tête hors de l'eau, ben, se dire je vais peut-être perdre 300 euros le mois prochain, c'est pas une mince affaire. Et donc ça crée énormément de barrières. Et donc supprimer le statut de cohabitant, ce serait aussi simplifier les choses à la fois pour les assistants et les assistantes sociales et pour les bénéficiaires d'allocations qui pourraient y voir plus clair dans le système qui est devenu extrêmement compliqué aujourd'hui.
Oui, qui est extrêmement compliqué, comme vous le disiez aussi, qui est différent d'une région à l'autre, qui ne s'applique pas de la même manière, puisque vous-même, hein, Bernadette, vous relatiez le fait que il y a eu un changement de ce statut pour vous. Comment est-ce qu'ils ont justifié ça, ce changement?
Ah, c'est assez étonnant. Nous sommes allés au tribunal et on a perdu, puis nous sommes allés en appel. Et le juge a demandé, l'avocat général a demandé à l'avocate de la Vierge Noire, tiens, comment ça se fait qu'il était isolé à Liège et ici? Vous pouvez expliquer? Ah non, je ne peux pas l'expliquer, a-t-elle répondu. Tout simplement, donc ce sont des décisions tout à fait... J'ai un autre cas, la dame à Liège encore, Serimple exactement. Ça avait l'air de ne poser aucun problème qu'elle soit son fils et elle colocataire. Le policier est venu, il a ok, pas de souci. À la commune, on disait « Ok, non, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Vous avez fait un bail de colocation, un pacte de colocation. Donc, pas de souci. » Et puis, pouf, du jour au lendemain, on lui a annoncé « Non, désolé, il sera cohabitant. » Donc, on ne sait pas d'où ça vient. C'est totalement arbitraire pour moi. Totalement arbitraire d'une commune à l'autre. Et ça... C'est bien la preuve que nous, en tant que citoyens, on n'est pas égaux devant la loi. Et c'est pour ça que nous sommes allés au tribunal et que maintenant, nous allons en cassation. Et aux chances, nous avons...
Je l'ai déjà dit. Non.
Nous avons obtenu l'aide juridique. C'est notre fils a eu l'aide juridique. Parce que ça coûte très cher. Donc l'affaire est en cours, mais malheureusement, ça va durer longtemps. La Vierge Noire a 3 mois pour s'organiser en cassation, et puis ça peut mettre 1 an et demi, voire plusieurs années avant d'avoir la réponse, mais c'est par principe. Et pour les autres cas, parce que ça ne concerne pas non plus uniquement des gens qui tombent dans la pauvreté, évidemment. Bon, nous, on tient le coup parce que justement, on est en famille et qu'on peut tenir le coup. Mais c'est une question de principe parce que cette loi En fait, les allocations avant, c'était un droit par rapport à ce que la carrière. Tandis que maintenant, c'est par rapport à votre environnement, mm-hmm. avec qui vous vivez, ça peut changer. Donc, du jour au lendemain, vous habitez dans un appartement qui coûte autant. Du jour au lendemain, vous avez 300 euros, 400 en moins. Hop, vous devez déménager. Vous retrouvez quelqu'un, ah, ça va mieux. Allez, donc c'est vraiment stressant et c'est d'une injustice abominable.
Mmh. Et puis ça ne permet jamais d'envisager à long terme la situation et l'avenir.
Pas d'emprunt, rien. Mmh. On sait jamais ce qui peut arriver.
Mmh. On va marquer une petite pause musicale, puis après on va parler peut-être des solutions concrètes qu'on pourrait trouver à ça. Voici Trio avec la plage titulaire de son dernier album en date. Ça s'appelle Champ de bataille.
Mes chers parents, je ne vous ai rien dit tout ce temps. Mes parents et mes chers parents, mon collège, mon champ de bataille, sous les rires de mes camarades, je cachais mes égratignures, on me crachait à la figure. Ils aimaient battre des records, ils me frappaient.
Toujours en compagnie de Céline Devillet, Bernadette Caudron. Nous parlons du statut de cohabitant. Alors Bernadette, selon vous, c'est important de continuer à se battre et surtout d'aller au procès.
Oui, certainement, parce que donc il n'y a eu, à ma connaissance, mm-hmm. que deux arrêts en cassation. Bah, c'est, en fait, c'est l'ONEM qui est allé en cassation parce qu'ils avaient gagné. Mais à la Vierge Noire, donc au SPF Santé, à mon connaissance, il n'y a pas de réaction. Et moi, je conseille vraiment aux personnes qui sont dans cette situation-là de déposer plainte contre la Vierge Noire, d'autant qu'il existe des avocats Prodéo qui peuvent le faire, donc ça ne coûte rien. C'est pas très compliqué. On peut certainement donner, il y a pour trouver évidemment hein, un avocat, ça c'est parfois le parcours du combattant, mais en s'adressant à des palais de justice, il y a des rendez-vous gratuits aussi. On peut facilement trouver qui est Prodéo. Donc moi, j'encourage vraiment à y aller.
Oui, et nous, c'est vrai qu'on est intéressé ici par le procès que Bernadette fait contre le SPF Santé. Il y a déjà eu des procès donc sur le statut cohabitant contre l'ONEM, comme elle l'a dit, avec des personnes qui ont gagné, et surtout des personnes qui étaient en colocation, donc souvent des jeunes qui sont en colocation et qui prouvent qu'ils vivent séparément, comme vous avez essayé de le prouver ici pour que chacun paye ses charges et des choses comme ça, que chacun fait ses courses. Mais nous, au Réseau Wallon, évidemment, on veut surtout un changement dans la loi. On pense que déjà, ce serait plus juste. Et puis, évidemment, tout le monde n'a pas l'énergie, parfois, pour l'énergie. Se battre d'aller au tribunal. Et puis, on considère que cette loi est de toute façon injuste et donc il faut la supprimer. Alors, il y a eu quelques avancées les derniers temps. Malheureusement, c'était souvent des avancées dues aux crises. Par exemple, les personnes qui sont tombées en chômage temporaire durant le Covid n'ont pas dû subir le statut cohabitant. Ils ont eu un statut d'isolé, alors que ceux qui étaient déjà au chômage avant ont continué à le subir. Mais bon, pour nous, c'est une preuve que le gouvernement reconnaît aussi qu'il y a un problème avec ce statut cohabitant. Ici, dans le cadre des inondations, même chose, les personnes qui sont relogées chez des amis ou quoi gardent leur statut initial, donc ne soient pas cohabitants. Et puis, en ce qui concerne justement les allocations pour les personnes en situation de handicap, il y a eu une petite suppression du prix de l'amour en ce qui concerne l'allocation d'intégration, mais donc uniquement l'allocation d'intégration et pas l'allocation de remplacement de revenus qui est pour une partie des personnes en situation de handicap la part principale de leurs revenus. Et donc, on demande que ce statut cohabitant soit supprimé dans toutes les matières, que ce soit le CPS, le chômage, la maladie invalidité, des allocations pour personnes en situation de handicap et l'AGRAPA pour les pensionnés.
Donc des petites avancées quand même, mais c'est pas fini, il faut continuer forcément.
C'est ça, des petites avancées, un pas dans la porte, on va dire.
Oui.
Mais maintenant, il faut enfoncer cette porte. Ça fait 40 ans que c'est qu'il y a un débat. Il y a beaucoup de partis qui disent qu'ils sont en faveur de la suppression, mais ça n'est jamais dans l'accord de gouvernement, c'est toujours trop cher, etc. Et donc, nous, on mène une campagne qui va durer jusqu'à ce qu'on gagne pour dire qu'il faut supprimer ce statut cohabitant et que ce sera avantageux pour tout le monde, même si ça coûtera, certains disent 3 milliards dans un premier temps. Ça coûtera 3 milliards, mais par la suite, on verra vraiment les avantages de la suppression de ce statut qui est injuste.
En tout cas, un tout grand merci Céline et Bernadette aussi. Et puis, de toute façon, vous revenez quand vous voulez pour parler de l'état d'avancement des choses.
Merci.
Et nous, on vous soutient, bien évidemment.
C'est gentil.
Merci à vous.
Rebuild up and fake. I wish I could lie, never could fail. Well, it's beautiful.